Ghost Story.
Il y a une découverte assez étonnante, une découverte archéologique majeure, nous dit-on.
Oui, et elle a été faite par un adolescent de 15 ans. Le voici, il est québécois, il s'appelle William Gadouri. Et figurez-vous qu'il a découvert l'une des 5 plus grosses cités mayas, jusqu'ici inconnues. Tout ça grâce aux étoiles. En fait, il a analysé les 22 constellations qui correspondent aux 117 cités mayas connues. Et là, il s'est dit, mais il y a une 23e constellation. Donc, du coup, il devrait y avoir une 118e cité. Résultat, les agences spatiales internationales ont analysé les images et ils ont trouvé cette cité qui existe donc. Elle est perdue dans le Yucatan, dans la jungle au Mexique.
Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur Entre Story. Je les laisse juste finir.
Il l'a nommée lui-même, hein, il a eu ce privilège quand même. Elle s'appelle la bouche de feu. Et voilà, et les archéologues devraient bientôt emmener ce jeune homme pour essayer d'aller découvrir cette cité. Il y a une pyramide de 86 mètres, il y a 80 à 120 mètres carrés de structure autour. C'est une découverte majeure. Et figurez-vous que sa théorie sur les constellations et les sites, elle marcherait avec les civilisations aztèques, incas et arapa en Inde. Je pense qu'il va voyager, le petit, vu comme c'est parti.
Voilà, allez, au travail et bientôt les images. Enfin, le petit, comme vous dites, c'est une grosse tête. Hein.
Ouais.
Quelle histoire magnifique. J'en ai presque les larmes aux yeux. C'est beau, vive la science et vive Google Maps. Stop, stop, cher auditeur, lâche ton iPhone, envoie ma pain un tweet, ça va, on est sur Entre Story. Je sais que cette histoire est fortement remise en cause par les scientifiques et qu'il y a une quasi-certitude d'absence de toute cité maya à cet emplacement. Ils sont mignons sur Télématin, mais je ne sais pas du tout où ils vont chercher leurs infos. Ou plutôt, si, je sais, et c'est ça le problème. Du genre, cette phrase.
Et ils ont trouvé cette cité qui existe donc.
Désolé, chère Olivia, personne n'a trouvé cette cité. Bon, il y a bien un espèce de carré dans la forêt qu'on voit par satellite, mais c'est une plantation et un élève d'un archéologue était sur le site il y a quelque temps et a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un champ de marijuana. Peut-être qu'Olivia est passée par là-bas et a consommé du local, ça pourrait expliquer cette phrase.
Il y a une pyramide de 86 mètres, il y a 80 à 120 mètres carrés de structure autour.
Petite faute marrante, mais personne ne relève. 120 mètres carrés, c'est tout petit et c'est une cité de Lilliputiens. Aucune mention de l'Inde non plus sur les sources, c'est peut-être une reptilienne et elle a laissé passer des infos confidentielles sans faire exprès, je vois que ça. Trêve de plaisanterie, c'était juste pour signaler la grande qualité des médias et leur attachement viscéral à la vérité. Sans entrer dans les détails, le consensus scientifique est qu'il n'y a pas de relation entre le placement des constellations, qui est d'ailleurs culturel, et l'emplacement des cités mayas. Le site trouvé par le jeune homme est, a priori, une vieille plantation. Effectivement, depuis le mois de juin où cette nouvelle est sortie, aucune expédition n'a été organisée pour trouver une cité, ou non. C'est quand même une balade dans la jungle qui coûterait 100 000 euros à vue d'œil, et vu l'absence de preuves scientifiques, ça ne va pas se faire facilement. Il reste que vous en avez probablement entendu parler, l'info super cool, hein, pas les analyses et les démentis des scientifiques, faut pas déconner non plus, et que vous avez peut-être liké et partagé cette belle histoire sur les réseaux sociaux. Et c'est bien beau de critiquer le travail des journalistes, mais sauriez-vous repérer une information douteuse sur les Mayas ? Diane Davies, une archéologue anglaise spécialisée dans la culture maya ancienne, a justement écrit un article. 10 signes révélateurs d'une source douteuse sur les Mayas. Il est en anglais, mais elle m'a permis de le traduire et de vous le proposer en écrit sur entrostory.com et en audio sur cet épisode. La suite est donc la traduction de son article. Quand il y a un « je », il faut comprendre que c'est Diane Davies qui parle et pas moi. Je reviendrai en fin d'épisode en tant que moi-même pour vous donner quelques précisions et des infos sur un vrai projet spatio-archéologique. Je commence donc ma lecture de l'article. Comment repérer les sources douteuses sur les Mayas ? Depuis que l'histoire des Mayas a été ajoutée à l'étape 2 du programme national clé pour l'histoire, étude non européenne au Royaume-Uni, il y a une prolifération de ressources sur le sujet sur le net. La plupart d'entre elles sont absolument horribles. Après les nouvelles récentes à propos de l'histoire d'un adolescent qui aurait trouvé un site Maya, je pense que c'est le moment idéal pour que deux professeurs qui enseignent l'histoire des Mayas apprennent au grand public ce qu'il faut savoir et regarder pour confirmer la fiabilité d'une source. Méfiez-vous. Voici 10 signes révélateurs d'une source douteuse. Le terme « Mayan » est utilisé au lieu de « Maya ». Note du traducteur, évidemment ça ne marche qu'en anglais, mais vu que la plupart des ressources que vous trouverez est en anglais, c'est un excellent point. Je poursuis la lecture. Le terme « Mayan » est omniprésent dans les sources mal informées. Mayan People, Mayan Pyramids, Mayan Civilization. Tous les spécialistes des Mayas, et d'ailleurs tous les non-spécialistes qui ont lu un livre ou deux sur l'histoire des Mayas, savent que le mot juste est « Maya ». Leur calendrier est appelé le « Maya Calendar », leur civilisation est appelée « Maya Civilization », leur art est appelé « Maya Art ». Le seul moment où vous devez utiliser l'adjectif « Mayan » est lorsque vous parlez de leur langue, The Mayan Languages. Donc, si vous voyez Mayan People, Mayan Pyramids, Mayan Art, Mayan Civilization, etc., sur une publication, site web ou magazine, vous pouvez être sûr que la personne qui a écrit l'article ne sait pas grand-chose sur l'histoire des Mayas. 2. L'histoire du calendrier aztèque est présentée comme étant le calendrier Maya. Des sources sans scrupules utilisent la Sunstone pour illustrer les textes sur le calendrier Maya. Malheureusement, la célèbre culture est aztèque, pas Maya. Utiliser la Sunstone pour parler du calendrier Maya est comparable à utiliser des photos de la tour d'Elizabeth de Westminster, a.k.a. Big Ben, qui a été achevée en 1859, pour illustrer la façon dont les Romains voyaient le temps dans la Rome antique. Et oui, j'ai même vu cette image en couverture de livres sur les Mayas. Soyez méfiants. Ce qui nous mène vers le point 3. 3. Les Mayas sont identifiés comme étant des Aztèques. Cette confusion est très commune, mais la vérité, c'est que les Aztèques étaient très différents des Mayas. Ils parlaient une langue différente et avaient un système d'écriture différent. En outre, la civilisation Maya a commencé au moins 1500 ans avant celle des Aztèques. La capitale des Aztèques, Tenochtitlan, est aussi loin du grand centre urbain Maya de Tikal que Londres l'est de Milan, en Italie. Déclarer que les Aztèques et les Mayas sont les mêmes revient à dire que tous les Européens sont les mêmes, qu'ils parlent la même langue, qu'ils ont la même culture et les mêmes croyances. Voudriez-vous voir une image de Stonehenge sur la couverture d'un livre sur la France ? Je ne pense pas. Ensuite, on a les Égyptiens. 4. Les pyramides mayas sont similaires aux pyramides égyptiennes. J'ai bien peur que non. Premièrement, les Mayas et les Égyptiens ne vivaient pas dans la même période historique. Le moment de la construction des pyramides en Égypte était environ 200 ans plus tôt que la construction de la première pyramide maya. Deuxièmement, les pyramides égyptiennes avaient une forme et une fonction bien différentes que celles des Mayas. Les pyramides mayas ne sont pas réellement pyramidales. Elles ont une base polygonale, mais leurs faces ne se rejoignent pas sur un point commun comme les pyramides égyptiennes. Le sommet des pyramides mayas était plat et on y trouve souvent une chambre construite sur le dessus. Les pyramides d'Égypte ont été utilisées comme tombeaux pour des souverains morts, mais pour les Mayas, les pyramides étaient utilisées pour des cérémonies qui se passaient en haut et étaient vues depuis le bas. En dernier, elles étaient construites différemment. Les pyramides mayas étaient construites en couches, chaque génération construisant une structure plus grande par rapport à la précédente. Les pyramides égyptiennes, d'autre part, ont été conçues et construites comme un seul édifice. 5. On prétend que les Mayas ont mystérieusement disparu au Xe siècle après Jésus-Christ. Des sources mal informées parlent de la mystérieuse disparition des Mayas vers le Xe siècle après Jésus-Christ, ce qui peut tromper les gens en leur faisant penser que les Mayas ont disparu pour toujours. Premièrement, les Mayas n'ont pas disparu. Il y a environ 8 millions de Mayas qui vivent, aujourd'hui, dans divers pays d'Amérique centrale. Mexique, Guatemala, Belize, El Salvador et le Honduras. En fait, la moitié de la population du Guatemala est Maya. Bien qu'ils ne construisent plus les pyramides comme le faisaient leurs ancêtres, les Mayas « modernes » entre guillemets, portent des habits similaires, suivent des rituels similaires et certains utilisent encore l'ancien calendrier Maya. Je suis sûr qu'ils voudraient vous rassurer qu'ils n'ont définitivement pas disparu. On sait aujourd'hui que ce qui est appelé « l'effondrement de l'âge classique des Mayas » était en fait une lente rupture, suivie par une reconstruction de structures politiques, économiques et culturelles dans la société Maya. Les archéologues voient des villes abandonnées au cours du 9e, 10e et 11e siècle, et les gens qui voyageaient vers le nord dans la péninsule du Yucatan, Mexique, ont construit de nouvelles grandes villes comme Mayapan, qui a été occupée jusqu'au 15e siècle. Deuxièmement, il n'y avait rien de mystérieux. Un grand nombre de facteurs étaient en jeu. Il y avait une grande sécheresse dans la forêt tropicale pendant plusieurs décennies, donc les gens se sont déplacés vers le nord où les sources d'eau étaient plus accessibles. La compétition entre des factions belligérantes pour des ressources naturelles a augmenté les conflits, qui à son tour a conduit à la rupture des échanges commerciaux. Tout cela a probablement été exacerbé par des changements politiques et économiques dans le centre du Mexique. Donc, tout comme les Français n'ont pas disparu après la Révolution française, même s'ils ont cessé de construire des châteaux et qu'il y a eu de grands changements politiques, économiques et culturels dans la société française, les Mayas n'ont pas disparu mystérieusement autour du Xe siècle. 6. Les Mayas sont dépeints comme des psychopathes assoiffés de sang et aimant les sacrifices. Les Mayas sont souvent dépeints dans les médias et la culture populaire comme étant assoiffés de sang. Par exemple, le film de Mel Gibson, Apocalyptico. Donc, c'est une idée communément acceptée et souvent répétée, les Mayas faisaient beaucoup de sacrifices. En fait, il n'y a presque pas de traces de sacrifices dans le registre archéologique de la région Maya. Les rares preuves viennent de représentations picturales sur des céramiques ou en sculpture. La guerre entre les Mayas était en réalité beaucoup moins sanglante que la nôtre et non, ils n'ont pas utilisé de vrais crânes pour en faire une balle dans leur match de foot. Et non, le perdant n'était pas mis à mort. En guerre, ils capturaient et tuaient les opposants, mais sur une petite échelle. Les chefs se vantaient d'être celui aux 5 prisonniers ou celui aux 3 prisonniers. Les sacrifices par cadiectomie, l'ablation du cœur, qui ont été rapportés par les chroniqueurs espagnols, sont ceux faits par les Aztèques. Il est aussi important de garder à l'esprit que les conquistadors espagnols avaient beaucoup d'intérêt à décrire les peuples indigènes des Amériques comme étant des sauvages assoiffés de sang. Cela rendait la conquête et l'esclavage plus faciles à justifier, voire la controverse de Valladolid, beaucoup d'histoires ont été exagérées. Et qui sommes-nous pour les juger quand nous avons eu l'habitude de spectacles publics de personnes pendues ou décapitées, leurs têtes empalées sur les pointes au London Bridge? 7. Les anciens Mayas ont prédit que la fin du monde serait au 21 décembre 2012. Le phénomène de 2012 a été une série de croyances liées à des événements cataclysmiques qui déclencheraient la fin du monde le 21 décembre. Cette date a été vue comme étant la date de fin d'un cycle de 5125 ans du calendrier au compte long, et il a été dit que les anciens Mayas avaient prophétisé cet événement. Ce n'est pas vrai et tous les Mayas actuels et les spécialistes des Mayas le savent. De la même façon qu'au 31 décembre 1999, les gens utilisant le calendrier grégorien ont célébré la fin d'un siècle et d'un millénaire, même si techniquement il se terminait au 31 décembre 2000, le 21 décembre 2012 a été la fin d'un cycle du calendrier long et la fin du 13e Baktun. Un Baktun est l'équivalent de 394 ans. Seuls deux monuments mayas, le Tortuguero Monument 6 et la Corona Hiéroglyphique Stairway 12, mentionnent la fin du 13e Baktun. Aucun des deux ne contient une prophétie ou une spéculation sur ce qui pourrait arriver à cette date. Alors que la fin de la 13e Baktun serait peut-être une cause de célébration, le lendemain, les Mayas croyaient qu'un nouveau cycle, le 14e Baktun, commencerait, un peu comme le premier jour de Nouvel An. En fait, dans le temple des inscriptions de Palenque, où on trouve la tombe du roi Pakal, il a été écrit qu'on célébrerait l'anniversaire du couronnement du nouveau roi Pakal en 4772. 8. Les Mayas sont décrits comme un peuple primitif. Les Mayas ont créé une civilisation incroyable dans une forêt tropicale extrêmement humide où on trouve beaucoup d'insectes et d'animaux dangereux et très peu d'eau. Ils ont construit des temples spectaculaires, des pyramides et des palais sans utiliser d'outils en métal, sans roues ni aide animale comme les ânes, les bœufs ou les éléphants. Les Mayas sont la seule civilisation dans toute l'Amérique à avoir développé un système complet d'écriture semblable au nôtre. Ils ont été une des deux seules cultures au monde à avoir développé le zéro dans leur système numérique et ont été capables de faire des calculs avancés, de devenir de grands astronomes grâce à lui. Les Mayas étaient extrêmement avancés dans la peinture et la sculpture. Ils ont pratiqué le premier sport d'équipe au monde et, plus important, pour moi en tout cas, nous devons les remercier pour le chocolat. Donc non, ils n'étaient définitivement pas primitifs. Le problème avec ce point de vue sur les anciens Mayas, c'est que leurs réalisations sont expliquées avec l'aide des extraterrestres ou celles d'autres civilisations. 9. Les grandes réalisations des Mayas viennent des Olmèques. La civilisation Olmèque est une culture antérieure qu'on trouve le long de la côte du golfe de Mexico. Ce mythe des Olmèques étant une culture mère pour les Mayas et d'autres cultures en Mésoamérique a été remis en question il y a plus de 20 ans et a été écarté depuis. Les fouilles ont démontré qu'il y avait beaucoup d'autres cultures que les Olmèques qui vivaient en Mésoamérique, avant les Mayas, et plutôt que de chercher une culture mère, nous devrions chercher des cultures sœurs, qui s'influencent entre elles. En outre, les réalisations des Mayas sur l'écriture hiéroglyphique et les calendriers, qu'aucune autre culture mésoamericaine n'a découverte ou utilisée, indiquent qu'ils étaient beaucoup plus des innovateurs que des suiveurs. Donc, si les ressources que vous consultez mentionnent ce qui est écrit en dessus, il est clair qu'elles viennent de non-spécialistes et qu'il s'agit de vieilles informations redondantes écrites il y a plus de 20 ans. 10. Chichen Itza est la quintessence d'un site maya. Chichen Itza a été habité vers la fin de la période maya, près de 1400 ans après la première cité maya, et n'est pas purement maya. La cité était très cosmopolitaine, très influencée par le Mexique central, particulièrement les Toltecs qui ont pu y habiter. Donc, son architecture et son art, comme le Chakmul ou le Tzampantli, a.k.a. Skull Rex ou Ossuaire en français, proviennent du Mexique central, pas les Mayas. Un bien meilleur exemple de ville purement maya serait celle de Tikal, qui a été occupée pendant plus de 1500 ans. Donc, si la seule chose que vous voyez sur un site web est la ville de Chichen Itza, les chances que ce ne soit pas une source d'information valable sur les anciens Mayas est très grande et votre alarme anti-charlatan devrait sonner. J'arrête là pour la lecture de l'article. La suite de l'article est un recueil de sources consultables sur le net ou en livre qu'elles jugent fiables. Malheureusement pour les non-anglophones, tout est en anglais. Je vais juste revenir sur un ou deux points avant de passer au futur de l'exploration archéologique via satellite. Tout d'abord, sur la jolie histoire du jeune homme qui trouve une cité maya. L'article d'où est partie l'histoire vient du journal de Montréal, et au vu des réactions des archéologues à la suite de celui-ci, je me demande bien où ils ont pu aller pêcher leurs experts, ou comment ils ont interprété ce qu'ils ont dit. Même chose pour tous ceux qui ont relié l'info, dont les grands médias, qui n'ont pas pris le temps de faire du fact-checking avant de publier pour la course au like. Bravo les gars. Vous pouvez trouver un grand nombre d'articles en parlant, avec des arguments contre l'idée du jeune homme. Le truc marrant, c'est que même s'il était tombé pile poil sur une cité maya, ça n'aurait rien prouvé du tout. Il y a énormément de vestiges mayas, des villes entières si proches qu'elles se touchent presque. Il y a énormément d'étoiles. Trouver une corrélation entre les deux est juste normal. Un archéologue a même dit qu'en posant son doigt au hasard sur une carte de la région, on avait de grands risques de trouver une cité maya. C'est pas génial, ça ? Sur l'article que je vous ai lu, j'aimerais revenir ultra rapidement sur un point qui demanderait d'être détaillé avec un archéologue. Je relis la phrase. En fait, il n'y a presque pas de traces de sacrifice dans le registre archéologique de la région maya. Les rares preuves viennent de représentations picturales sur des céramiques ou en sculpture. C'est un point qui me semble super important et qui n'est pas si évident que ça. Ma première réaction en lisant ce texte a été de me dire que l'archéologue devait se tromper sur ce point. J'ai même vu des reportages parler de nombreux sacrifices ou encore du football avec un crâne. Le mot-clé, c'est en anglais « archaeological record » ou « registre archéologique » ou « patrimoine archéologique » en français. Le registre archéologique est tout ce qui a été trouvé physiquement, les traces du passé non écrites. Autrement dit, il peut y avoir des écrits où de nombreux sacrifices sont décrits, il peut y avoir des représentations en bas-relief, mais ils ne comptent pas dans le registre archéologique. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, avec le Popol Vuh, un texte mythologique écrit à l'époque coloniale qui mentionne les sacrifices lors des jeux de balle. Ce n'est pas pour autant une preuve de ceci. Si c'était le cas, alors j'imagine qu'on devrait aussi croire que les humains ont été créés à partir du maïs, ce qui donnerait un tout autre sens à l'expression « il est craquant, lui », en parlant d'un homme attractif. Transporté à une époque future, on imagine mal un archéologue penser que les dinosaures existaient en 1995 en regardant Jurassic Park. Certes, il pourrait se mettre à rechercher des ossements de dinosaures, après tout pourquoi pas, mais tant qu'il n'en trouve pas qui datent de la même époque et en parfaite relation avec le registre archéologique, il ne pensera pas qu'on était entouré de dinosaures. Ou tout au moins, il n'en aura pas du tout la preuve. Je sais, ça vaudrait le coup de s'y attarder beaucoup plus longtemps et d'en apprendre plus, je mets ça sur la longue liste des sujets à traiter sur AnthroStory. Sentez-vous libre de m'en contacter si vous en savez plus et si vous désirez le partager avec nous. Autre point qui, lui aussi, mériterait qu'on s'y attarde, je cite la phrase « Le problème avec ce point de vue sur les anciens mayas, c'est que leurs réalisations sont expliquées avec l'aide des extraterrestres ou celles d'autres civilisations. » On en a déjà parlé sur AnthroStory, notamment avec l'interview de l'anthropologue qui a travaillé sur le jeu Far Cry Primal, mais on a toujours tendance à penser que nos ancêtres étaient des sauvages complètement cons, incapables de quoi que ce soit. Ajoutez à ça un reste de racisme colonialiste et vous obtenez un mélange au relent nauséabond. J'adore les grandes théories des aliens qui viennent construire les pyramides mayas, ça fait souvent de belles histoires. Mais derrière celles-ci, ce qui se cache est beaucoup moins fun. Chercher des explications extraterrestres plutôt qu'avouer que nos ancêtres étaient de bons bâtisseurs, quand on y réfléchit, c'est un peu horrible, non ? Alors que ces mêmes ancêtres ont survécu dans des endroits qui, aujourd'hui encore, malgré notre belle technologie, sont toujours des environnements difficiles ? Là aussi, ça demanderait un long débat presque philosophique, mais cette idée qui veut que nos ancêtres, et encore pire, les ancêtres des autres, étaient des incapables, et systématiquement, me dérange beaucoup. Mais vous le savez, j'aime les belles histoires. Et ça me chagrine un peu de vous en avoir cassé une et de vous laisser tout seul. Moi, j'ai envie d'entendre un truc comme ça aux infos.
Il y a 7 jours, au-dessus de l'Antarctique, un de mes satellites a découvert une pyramide.
C'est peut-être la première pyramide de l'humanité.
À quel endroit de la banquise ?
Elle n'est pas sur la banquise. Elle est à 700 mètres de profondeur.
Ça contredit tout ce que l'histoire a pu écrire sur les pyramides.
Réécrivons l'histoire.
Oh mon Dieu.
Ceux qui l'ont bâti faisaient des sacrifices rituels.
Vous avez entendu ?
Ouais, ok, pour vrai, c'est un peu différent, et tant mieux, je suis pas certain qu'avoir une guerre entre des aliens et des prédateurs soit vraiment souhaitable ailleurs qu'au cinéma. Mais je vais vous laisser Sarah Parkak vous présenter ça.
We will do nothing less than use state-of-the-art technology to map an entire country. This is a dream, started by here in Bingham. But we are expanding it to the world, making archaeological exploration more open, inclusive, and at a scale simply not previously possible. This is why I am so excited to share with you all today that we will begin the 2016 TED Prize platform in Latin America, more specifically, Peru.
Oui, bravo. Ça, c'est un projet génial, dont elle parlait en l'occurrence à une conférence TED. Pour faire court, elle dit que les archéologues ont exploré moins de 10% de la surface planétaire. Tout ce que nous savons sur les civilisations antérieures provient d'une surface collective équivalente à la superficie de l'Égypte. Cela nous a pris des centaines d'années pour l'explorer. Mais dans les 10 prochaines années, nous pouvons explorer les 90% restants. Avouez que ça a de la gueule comme speech. Moi, je veux être un citoyen spatio-archéologue, ça a l'air trop cool. En vrai, c'est un peu moins rigolo, hein, mais c'est cool quand même. Pour trouver de nouveaux sites archéologiques, mais aussi pour observer et rapporter ceux qui sont pillés, il faut des images satellites et surtout des yeux entraînés pour les analyser. Global Explorer est un projet collaboratif où il sera expliqué comment rechercher ces sites sur les images satellites. Le programme n'est pas encore online, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Ensuite, nous devrions recevoir des informations sur comment analyser les images et comment reporter des éléments ou des anomalies. Nous devrions recevoir des images satellites, sans données GPS pour éviter les fraudes évidemment, et les observer, puis renvoyer les résultats. Le système, en mode fermé avec son équipe, a déjà permis de trouver des villes entières, et pour vrai, grâce à l'excellente qualité des clichés satellites. Le premier projet sera focalisé sur le Pérou, qui sera entièrement photographié à haute résolution par satellite, puis les spatio-archéologues se mettront au travail. On peut s'attendre à de belles découvertes, de quoi remplir la to-do list de milliers d'archéologues. Allez sur globalexplorer.org pour en savoir plus et vous inscrire. Qui sera le premier auditeur d'Anthrostory à trouver une cité perdue? En tout cas, moi je vais essayer. En attendant de mettre votre chapeau d'Indiana Jones, continuez à lire des bouquins et arrêtez de regarder la télé, c'est presque que de la merde, et surtout, écoutez des podcasts. À dans 2 semaines, ciao, bonsoir. Anthrostory.